l'heure, c'est le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous. Un premier débat en prélude à la primaire. Les 5 candidats écologistes confronteront leurs programmes et leurs arguments à partir de midi sur France Inter dans Questions politiques. Le chiffre du jour, 54, c'est le nombre de médailles françaises récoltées aux Jeux paralympiques. Le compteur est désormais arrêté à quelques heures de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo. Une dernière médaille d'or en badminton pour Lucas Mazur, tellement fier.
Merci du fond du cœur à tout le monde, merci à mes coachs, merci à tous ceux qui ont cru, merci à ceux qui n'ont pas cru. Aussi parce que ça m'a donné beaucoup de force et aujourd'hui elle est pour la France celle-là.
Et on y reviendra dans le journal des sports avec Laetitia Bernard dans quelques minutes. Comment fuir l'Afghanistan alors qu'il n'y a plus de pont aérien? Notre envoyé spécial s'est rendu dans la 4e ville du pays, Mazar-e-Sharif, où beaucoup de familles tentent un départ. Le pass sanitaire, il n'y a pas que les discothèques qui ont rouvert cet été, les dancing aussi, et les grands-parents renouent avec la boule à facettes. Et une dictée en apesanteur, Thomas Pesquet aura vraiment tout fait en orbite au-dessus de nos têtes. Il fera plancher à distance 500 terriens.
Et puis à partir de 8h20 ce matin, on va parler d'égalité avec notre invité Thomas Piketty. Il signe Une brève histoire de l'égalité parue aux éditions du Seuil.
France Inter. Ils sont 5, ils ont 1h30 pour convaincre, se différencier sans trop s'écharper, mettre en avant leurs idées séduisantes, contraignantes ou clivantes. À 12 jours du premier tour de la primaire écologiste, les 5 prétendants vont débattre en direct sur France Inter dès midi dans l'émission Questions politiques. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Deux femmes, 3 hommes, vous nous les présentez.
Alors il y a d'abord le profil le plus étrange, le centriste Jean-Marc Governatori, cofondateur de Cap 21. À 63 ans, il a été chef d'entreprise. Il défend l'écologie par la cause du condor, du ver de terre et du potager. Extérieur aussi à Europe Écologie Les Verts, ancienne ministre de l'écologie de François Hollande, Delphine Bateau, 48 ans, formée par Julien Drey à SOS Racisme, au PS. Elle fera campagne avec Ségolène Royal avant de rompre. Députée et présidente de Génération Écologie, elle revendique la décroissance. Sandrine Rousseau, 49 ans, vice-présidente de l'Université de Lille, enseignante en économie. Elle est l'une des accusatrices de Denis Baupin et se considère comme une pionnière du mouvement MeToo, l'écoféministe. Et son étendard. Proche politiquement, le maire de Grenoble, Éric Piolle, 48 ans, ancien ingénieur. Il défend une écologie de rupture, mais pas punitive. De l'espoir, c'est son slogan. Enfin, l'eurodéputé Yannick Jadot, 54 ans, ancien directeur des campagnes de Greenpeace. Il y a gagné un casier judiciaire pour avoir tenté de s'introduire à l'île Longue, la base des sous-marins nucléaires, en 2005. Radical dans ses propositions, mais avec un style plus social-démocrate que ses concurrents.
Alors, Laurence, vous les avez vus s'affronter à Fleuret-Moucheté il y a 2 semaines, aujourd'hui. Journée d'été d'Europe Écologie Les Verts, c'était à Poitiers. On sait que c'est pas toujours le favori qui l'emporte. Quel est votre pronostic?
Eh bien, très clairement, l'écoféministe Sandrine Rousseau, avec un discours aussi lyrique qu'étayé, a dominé l'épreuve. Yannick Jadot a rempli avec aisance la case allocution de futur président. Un peu en dessous, le maire de Grenoble, Éric Piolle, moins rompu à l'exercice. Delphine Bateau, elle avait choisi de laisser parler son directeur de campagne, Cédric Villani, et de répondre aux questions. Peu de gens ont compris où était passée la politique brillante, elle qui d'habitude excellent débat. Et puis comme c'était prévisible, le centriste a défendu une écologie du en même temps que la plupart des militants là-bas avaient choisi de boycotter plutôt à la buvette.
Voilà, le débat c'est à partir de midi sur France Inter. La gauche, qui pèse à peu près 30% des électeurs dans les sondages, compte un candidat de plus. L'ancien ministre du redressement productif Arnaud Montebourg propose un redressement en mode remontada pour la France, un renouveau industriel, démocratique, territorial et écologique. Valérie Pécresse, elle, creuse son sillon ce matin dans le journal du dimanche. Elle dévoile son programme en matière de sécurité. Elle souhaite faciliter l'expulsion des islamistes étrangers ou encore élargir la notion d'intelligence avec l'ennemi prévue en temps de guerre pour l'appliquer à la lutte antiterroriste.
En Afghanistan, Christelle, les talibans n'ont toujours pas formé leur gouvernement.
Et ceux qui cherchent à fuir ce régime ne peuvent plus bénéficier du pont aérien. Alors, ils quittent Kaboul. Dans la ville de Mazar-e-Sharif, dans le nord du pays, la plupart des hôtels sont complets, remplis de familles venues de tout le pays dans l'espoir de prendre un vol depuis l'aéroport. Reportage de notre envoyé spécial Wilson Fash.
Deux chambres d'hôtel, 2 parents, 5 enfants et un petit sac à dos par personne. Cette famille afghane est engagée dans une véritable course contre la montre pour quitter le pays avant que les talibans ne les retrouvent. Le père, Zamri, occupait un poste important dans le précédent gouvernement. Il se sent aujourd'hui menacé. Il sourit, mais semble être au bord des larmes.
Nous avons tenté à plusieurs reprises de quitter le pays via l'aéroport de Kaboul, mais ça n'a pas marché. Donc maintenant, on tente notre chance ici, à Mazar-e-Sharif. Moi, je veux simplement offrir un avenir à mes enfants, qu'ils puissent faire des études, parce que maintenant, l'Afghanistan, ce n'est plus possible. Avec le retour des talibans, notre pays a fait un bond en arrière de 20 ans.
Faire des études, c'est tout ce que souhaite Malala, sa fille de 17 ans.
Je me sens très mal. À Kaboul, nous avions une très bonne vie, mais quand les talibans se sont emparés de la ville, nous avons dû tout abandonner. Maintenant, nous comptons aller aux États-Unis et moi, j'aimerais devenir docteur.
D'après le gérant de l'hôtel, les 150 personnes qui logent ici en ce moment cherchent quasi toutes à quitter le pays via l'aéroport de Mazar al-Sharif. Mais les avions se font rares et la menace se rapproche. Mazar al-Sharif, Wilson Fash, France Inter.
Et si le pass sanitaire jouait les prolongations, Emmanuel Macron n'exclut plus d'aller au-delà du 15 novembre. Il reste 10 millions de Français à vacciner. Ce week-end, pour accélérer la cadence, on pique 100 rendez-vous dans tous les centres du pays. L'occasion pour les soignants de faire de la pédagogie. C'est le cas de Karine, médecin, que Béatrice Duguay a rencontré au vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La plupart du temps, ils n'ont eu aucune parole médicale. Ils ont eu des informations de réseaux sociaux, de ce qu'ils se disent entre amis, mais pas la parole médicale. Le fait d'avoir un contact avec un médecin qui leur explique concrètement les choses et qui est à l'écoute de leurs angoisses, parce qu'effectivement, on a peur des choses qu'on ne connaît pas. Donc c'est tout à fait légitime qu'ils aient des peurs, des craintes. Initier le dialogue, ça permet souvent de calmer les peurs et d'arriver à ce que la vaccination soit faite. On a beaucoup de questions sur la fertilité en ce moment. Il y en a qui ont tout simplement peur de la piqûre, par exemple. Et bien alors, on les installe dans notre espace VIP, au poste de secours. On les allonge, on les bichonne, ventilateur, verre d'eau, pâte de fruits, tout va bien. Et quand ils se sentent prêts, et ben on y va et on fait l'injection. C'est aussi à nous de s'adapter, d'écouter quelles sont les angoisses, parce qu'elles sont très variées. Et du coup, d'y répondre au mieux.
Karine, médecin interrogée par Béatrice Duguay. La mobilisation des antipasses anti-vaccins s'est encore effritée hier. 140 000 participants dans toute la France. Il y a eu quelques débordements, notamment une intrusion de manifestants dans le centre commercial des Halles à Paris. Sur l'île de la Réunion, l'épidémie marque le pas au point que le confinement sera levé en semaine dès demain et le couvre-feu repoussé à 21h. Et nos aînés qui disposent du pass sanitaire renouent en ce moment avec un de leurs plaisirs favoris, les dancing rétro qui ont pu rouvrir cet été. Alors partons à Ballaruc-les-Bains, au bien nommé Nostalgia. Beaucoup sont revenus plus pimpants que jamais. Pour la première fois cette semaine, Virginie Vandeville de France Bleu Hérault les a suivis.
À l'entrée, Christine trépigne d'impatience.
Ah, il faut absolument que je me détende. Avec la danse, on oublie tout. Pourvu qu'il y ait des danseurs.
Et les danseurs sont là, sueur sur le front. Un rythme un peu trop intense pour François.
Je peux casser.
D'autres n'osent même pas se lancer comme Claude. Après un an sans dancing, l'homme de 85 ans est bloqué sur sa chaise.
On danse plus. Alors on s'ankylose. Et je danse pas trop mal quand même d'habitude. Il faudrait que je trouve une dame que je connaisse bien pour l'inviter et voilà pour faire la première pas.
Et sa partenaire idéale pourrait bien être Isabelle qui espère au fond de la salle.
Ouais, j'essaie de faire mes petits yeux doux, mon joli sourire pour qu'un cavalier vienne me faire danser.
Et sa mort, mais après une valse avec son partenaire, c'est la déception.
Ben, j'attendais un meilleur cavalier, il n'y a pas d'allure.
Ah ouais, parce que c'est important la tenue aussi.
Ah oui, c'est la moindre des choses, nous on s'habille bien.
C'est qu'elle a sorti les talons, sa longue robe bleue. Et ça pourrait bien séduire Hervé à 80 ans. Le sétois n'est pas venu que pour danser.
Ah, mais moi je danse utile, madame. Les slow, tout ça, c'est pour faire chaud.
Il est loin d'être le seul ici. Hein. Flirte le temps d'une danse ou plus. Ici, tout le monde le sait. Ce qui se passe au Nostalgia reste au Nostalgia.
Et il n'y a pas d'âge pour pécho.
Oui, je retiens la notion du danser utile. À bientôt 8h10 sur France Inter. C'est l'heure des sports.
Avec Laetitia Bernard. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Les dernières médailles et une ultime Marseillaise aux Jeux Paralympiques de Tokyo.
Effectivement, dernière Marseillaise en badminton grâce à Lucas Mazur, le nouveau champion paralympique en individuel.
J'ai pris la foudre pendant très longtemps. J'ai attendu mon heure. J'ai attendu le moment parfait pour attaquer et tuer le match. J'ai su le faire sur les deux money time du deuxième et troisième set. Et ça a payé. J'ai pris le filet. Et c'était un risque à prendre. J'ai pilonné derrière et ça a marché. Merci du fond du cœur à tout le monde. Merci à mes coachs. Merci à tous ceux qui ont cru. Merci à ceux qui n'ont pas cru aussi parce que ça m'a donné beaucoup de force. Et aujourd'hui,
Elle est pour la France, celle-là.
Et merci à lui. Le jeune homme de 23 ans rentre avec 2 médailles, car il a enchaîné les finales ce matin. La deuxième, elle est en argent en double mixte avec Faustine Noël. 54 médailles au final pour la délégation tricolore. Les Jeux paralympiques de Tokyo s'achèvent dans quelques heures. Paris 2024 prendra le relais. La cérémonie de clôture commence à 13h. Et pour la première fois, la Marseillaise sera interprétée en chant signé, un art qui utilise la langue des signes, ainsi que les expressions corporelles, du visage, du regard, afin de transmettre les émotions et donc de partager le spectacle avec les personnes sourdes et malentendantes.
On parle de football à présent, Laetitia, encore un match nul, nul vraiment pour l'équipe de France hier soir en Ukraine.
Vous êtes dur. Un partout en tous les cas, les Bleus accrochés, un partout en Ukraine, effectivement. La qualification pour le Mondial 2022, cela dit, elle n'est absolument pas compromise, mais c'est vrai que c'est le 5e match nul consécutif et que le goût de la victoire commence à se faire dangereusement oublier, Alexandre Vaux.
Un score de parité aux allures de victoire hier soir pour les Ukrainiens devant leur public quand les champions du monde français ont été sacrés champions du match nul. Les Bleus ont d'abord dominé sans marquer avant d'être sanctionnés en contre juste avant la mi-temps au pire moment. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, n'était pas content.
On n'a pas mis ce qu'il fallait. Cette équipe d'Ukraine dans les duels, dans l'agressivité, nous a été supérieure. Puis bon, ce scénario de la première mi-temps où on a l'occasion d'ouvrir le score et on se fait planter sur le contre.
Mais au retour des vestiaires, Anthony Martial, jusque-là maladroit, égalise avant que Moussa Diaby manque l'occasion de célébrer de la plus belle des manières sa première sélection. Il y a 8 ans, les Bleus avaient sombré à Kiev. Hier soir, ils ont évité le pire, reconnaît le milieu de terrain Adrien Rabiot.
Je sais que c'est pas des excuses, mais ça reste compliqué, ça reste un match de football. On a tout donné, en tout cas, on a tout fait pour. On aurait pu revenir avec la victoire parce qu'on a eu les occasions, mais malheureusement, c'est pas rentré.
Malgré ce nouveau match nul, l'équipe de France reste première de son groupe devant la Finlande avant la première manche, mardi à Lyon, d'une double confrontation décisive face aux Finlandais.
La première division féminine, donc en France, victoire hier de Bordeaux et de Dijon. Les grandes favorites lyonnaises reçoivent Saint-Étienne aujourd'hui en clôture de cette deuxième journée de championnat.
Et puis Gaël Monfils ne jouera pas les huitièmes de finale de l'US Open de tennis.
Et non, le dernier Français en lice a été battu cette nuit en 5-7 par le jeune espoir italien, le grand espoir Yannick Sinner. Gaël Monfils, trop inconstant pour l'emporter. Qualification en revanche pour les huitièmes de finale d'Alexander Zverev et Novak Djokovic. C'est chez les dames, élimination de la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty. La reprise du top 14 de rugby pour son retour dans l'élite Biarritz sur classe Bordeaux. Perpignan cède face à Brive. Dans le derby francilien, avantage au Racing 92 sur le Stade français. Et maintenant cap sur un choc ce soir. Pour terminer cette première journée en beauté, les deux finalistes de la Coupe d'Europe et du top 14 d'ailleurs de la saison dernière, vous avez deviné. C'est le désormais classique La Rochelle, Stade Toulousain à 21h.
Bon, et puis un petit clin d'œil ce matin à des milliers de coureurs amateurs heureux de chausser leurs baskets.
Et oui, après des mois de privation, d'annulation d'épreuves sportives de masse, le semi-marathon de Paris est de retour. 25 000 personnes quand même rassemblés ce matin au départ de la place de la Bastille. Bonne chance à eux.
Merci Laetitia. Pour finir, Marguerite Duras en orbite. Qui l'eût cru ? Thomas Pesquet propose à 400 km au-dessus de nos têtes cet après-midi la dictée la plus improbable de l'histoire, tirée d'un de ses romans préférés, Barrage contre le Pacifique. Elle sera suivie à terre par 500 personnes qui plancheront sur le tarmac du musée de l'air et de l'espace du Bourget. L'astronaute se souvient de son apprentissage et considère que l'orthographe, c'est un marqueur social.
Alors, moi, j'étais pas en prof, donc évidemment, l'orthographe, la dictée, les bonnes notes, etc., c'était un peu un passage obligé à la maison. Moi, c'était les doubles consonnes, en fait, qui me posaient un peu de problème. Je trouvais que ça avait pas de logique qu'on ait deux P ou deux T ou deux N, ou avec le son, on change pas, que ce soit juste une espèce de coquetterie de la langue. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant que j'ai beaucoup vécu à l'étranger, parlé un peu des langues étrangères, je me suis rendu compte que c'est un truc très très français ça. Il y a plein de langues pour lesquelles la dictée, ça a pas de sens parce que les mots s'écrivent exactement de la même manière dont ils se prononcent. Il n'y a pas de subtilité orthographique comme on a en français, c'est-à-dire qu'un son, en français ça s'écrit, ça peut s'écrire de 10 000 manières. F, ça peut être F, ça peut être 2F, ça peut être PH. C'est là qu'on se rend compte que le français c'est un peu compliqué. Quand on a mis la langue sur papier, une langue qui était orale, on l'a rendue compliquée. Exprès, pour que ce soit un signe d'éducation. C'est rester un marqueur social. Peut-être un jour, il faudra faire une réforme pour rendre la langue un peu plus simple, en fait, pour que du coup, elle soit plus facile à apprendre à l'étranger, pour qu'elle se réponde un peu mieux, pour que, je sais pas, peut-être que c'est le moment.
Thomas Pesquet interrogé par Sophie Becherel, une dictée en apesanteur avec un seul P. C'est pas de quoi déstabiliser Thomas Pesquet.
Non, Thomas Pesquet, le livre de Marguerite Duras d'une main et le saxophone de l'autre. On se demande ce qu'il ne fait pas en apesanteur. C'était le journal de Christelle Rebière. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Avec une confirmation, Jean-Michel Gonaski, c'est toujours l'été. Hein.
Une journée aux allures estivales avec cet après-midi des températures plus élevées qu'hier, mais moins chaudes que celles prévues en début de semaine. Cet après-midi, il va faire 23 degrés près de la Manche, 27 à 29 de Rennes à Lille, de Paris à Metz et d'Angoulême à Lyon, et 28 à 30 degrés plus au sud, voire 32 sur la plaine toulousaine. Après l'évolution favorable des grisailles, le soleil sera de la partie, mais sous un ciel tout de même beaucoup plus dégagé sur les régions du sud et de l'ouest, avec un faible risque d'averse cet après-midi entre l'Auvergne et le nord de la Seine, et un ciel plus menaçant en milieu d'après-midi entre les Alpes et la Corse.
Jean-Michel Gonaski, Météo France.